réjouir. Certaines fois, après la nouveauté, on réalise ou on prend conscience qu'il y a du positif, où on découvre aussi certains aspects un peu plus négatifs. Mais on avance un peu. Et d'autres fois, on peut aussi avoir l'impression de tourner en rond, de revivre des situations, des difficultés, des choses qu'on a déjà vécues et qu'on n'a pas envie de revivre. Et avoir l'impression de ne pas avancer, ce n'est pas toujours très agréable. Et bien alors, on se dit des fois que c'est trop tard pour changer, pour faire un pas, pour prendre cette décision, que ça ne vaut plus la peine. Alors ce matin, je voulais vous partager une image que vous avez peut-être déjà vue, je ne sais pas si à la projection on peut la voir, vous l'avez peut-être déjà vue sur Internet. J'ai essayé de la refaire, mais à la main, comme ça, alors c'est pas très très graphique et c'est peut-être pas tout à fait réussi, mais voici une image que j'ai vue puis qui me parle un petit peu de temps en temps. On a tout à gauche un point de départ, ça peut être notre naissance, et ce qui est en sombre là, c'est le passé. Et alors ça rend pas très bien la photo, mais il y a un petit chemin en vert, ça c'est mon chemin, c'est mes choix, l'ensemble de mes choix parmi tous les autres choix que j'aurais pu faire en noir. Et puis aujourd'hui, je me retrouve à ce point-là, il y a la flèche qui essaye de pointer un peu. Et peu importe où j'en suis, mon chemin, celui que j'ai pris, plus ou moins en haut, plus ou moins en bas, il n'y a pas d'échelle ou de sens dans lequel il faut aller, mais je suis là, à ce petit point avec la flèche, et aujourd'hui, s'ouvre un nouveau champ de possibles. Donc, après ma situation actuelle, je me questionne des fois sur ces possibilités. Mais le but, ce n'est pas de revenir en arrière sur ces différents traits noirs que je n'ai pas suivis, pour le meilleur ou pour le pire. Par contre, aujourd'hui, nouveau, il y a plein de chemins qui s'ouvrent. Et dans ces chemins que j'ai mis un petit peu en vert, qui sont un petit peu clairs là, c'est à moi de choisir celui que je vais prendre aujourd'hui et que je puisse, ce chemin que je vais prendre, le vivre, le remettre entre les mains de Dieu. Aujourd'hui encore, je peux mettre de côté certaines choses sans oublier le reste, mais avancer à partir de là où j'en suis. Alors je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que même si je n'en suis pas toujours conscient, tu as été présent sur le chemin de ma vie jusque-là. Et des fois j'ai envie de revenir en arrière, où je me questionne sur ces autres chemins que j'aurais pu prendre. Mais aujourd'hui, ce matin, je veux me placer devant toi et je veux me réjouir parce que tu es présent. Viens m'aider dans les choix qui s'offrent à moi maintenant. Mais surtout, viens parcourir à mes côtés la suite de mon chemin. Seigneur, ce matin, je veux t'inviter à nouveau dans ma vie. Je te la remets entre tes mains. Aide-moi à me rapprocher de toi. Aide-moi, aide-nous à mieux te connaître, à mieux connaître ta parole, à être témoin de ton action et à te placer, toi le Christ, le Sauveur, à te placer au centre de ma vie, de nos vies, au centre de notre culte. Amen. Et je vous invite à vous réjouir avec la louange. Merci à l'équipe.
Bonjour à tout le monde. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour louer notre Dieu. Ce matin, on a écouté un nouveau chant. Je vous rassure, on ne va pas le chanter en anglais. Qui dit « Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain ? Rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterne-nous, adorons. Notre Dieu, notre roi, nul n'est son égal, prosterné, adorons-le. »
Qui a mesuré les océans, qui a exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prospère et adore. Notre roi, nul n'est son égal, prospère et adore. Qui sonde l'esprit de l'Éternel, qui sait d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux.
Chantons notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu nous a envoyé un esprit par lequel nous pouvons crier Abba Père. Alors chantons Abba Père.
Abba Père.
Vous pouvez reprendre place, c'est chouette de pouvoir se dire que ce Dieu, on peut l'appeler Abba, Papa, et c'est valable pour les enfants comme pour les un peu plus grands aussi. Il est toujours notre Papa. Alors je vais prier pour la suite du culte où les plus jeunes, eux, vont se retrouver dans leur groupe, donc ils continuent le culte mais un petit peu différemment. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes dans nos familles et dans l'Église. Ils sont précieux pour toi. Aide-nous à être témoins en tant que parents, en tant qu'aînés. Et merci pour les personnes qui s'occupent des potes, qui s'occupent aussi des jeunes, avec le caté, le groupe de jeunes, semaine après semaine. Et ce matin, que tu accompagnes particulièrement Rebecca et Kevin, qui seront avec eux, que tu les renouvelles, que tu prennes soin de tous ces enfants, que tu leur permettes d'avancer avec toi, de continuer d'apprendre à te connaître et de continuer ce chemin avec toi. Amen. Allez les enfants, je vous laisse rejoindre vos groupes. Bonne suite de culte à vous. Et pour la suite du culte pour nous, on a déjà chanté dans certains de ces chants, on a parlé de l'agneau de Dieu, celui qui est passé par la croix. Parce que face à la grandeur de Dieu, sa sainteté, face à qui il est, rien ne peut tenir. Parce que lui, il est tout autre de nous. Même si nous sommes son image, nous sommes à son image, il y a eu un moment où nous nous sommes détournés. Il y a bien longtemps, mais moi aussi, il y a eu un moment ou des moments où je me suis détourné de lui. Et vivre ce moment, on va passer à la scène, vivre ce moment de scène, le partager ensemble, eh bien, c'est nous rappeler comment Dieu a fait pour nous permettre de nous approcher de lui vraiment, maintenant, et dans l'espérance d'une vie nouvelle. Et je vais lire quelques versets qu'on entendra un petit peu plus tard, d'Ésaïe 53. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel ? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous, nous avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié, eh bien, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Je vous invite à chanter. Merci pour la croix.
On attend parler de lui,
étant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds. Provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai, tant de haine et de violence, supporté dans le silence, le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce, j'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai, merci pour la croix. Pour ton sacrifice parfait, merci pour la croix. Pour ton amour si grand et vrai, merci pour la croix.
c'est par Jésus, le Messie, le Sauveur, que ces paroles ont été accomplies pleinement. Celles que j'ai lues tout à l'heure dans Ésaïe 53, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais c'est ce que nous voulons signifier maintenant, par ce temps de scène, signifier et vivre. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prié la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous prions. Nous attendons ce jour impatiemment, Seigneur. Nous partagerons ce repas avec toi. Et les dizaines, les centaines de millions d'autres chrétiens qui nous ont précédés. Nous prions d'hâter ce jour-là. Mais aujourd'hui, nous te disons merci, merci pour la croix. Nous te disons merci parce que toi, le juste, tu as pris sur toi notre injustice pour répandre ta justice sur nous les injustes. Merci pour ce salut si ample et généreux, acquis en Jésus, garanti par toi le Père et scellé par le Saint-Esprit. Notre privilège est énorme. Nous peinons à le réaliser, mais par ce geste, ce matin, en prenant un peu de pain, en buvant ce vin, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait à la croix. Que ton nom soit élevé. Amen.
Nous allons passer dans les rangs, que vous puisse vivre ce temps dans la présence du Seigneur en nous remettant entre ses mains. un peu plus loin dans Ésaïe. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Dieu, Père, ces paroles ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais nous voulons nous remettre entre tes mains et te louer pour la vie du Christ, ton Fils, qui a été donné, pour que nous aussi, nous puissions vivre avec toi. Merci Seigneur, parce que tu t'es chargé de nos fautes et nous pouvons nous présenter devant toi, prendre part à ton héritage comme faisant partie de ta descendance. Esprit Saint, aide-nous à vivre ces réalités, ton pardon, ton salut, tes promesses, déjà maintenant, en attendant qu'elles soient parfaitement réalisées quand nous serons avec toi dans ton royaume. Amen. On va poursuivre avec un temps de parole, la parole de Dieu, celle que Philippe va nous partager, qui parle aussi d'un Philippe. Alors que Dieu puisse continuer son œuvre en nous et travaille nos cœurs et nos esprits.
Merci Joël. Bonjour à chacun, à chacune. Vous voyez un drôle de numéro s'afficher. Nous n'avons pas de tendance à la numérologie ici, mais nous vous proposons la possibilité du recours à Slido pendant la prédication. Et donc Slido, c'est une appli facile à trouver sur vos smartphones. Si vous renseignez ce numéro 209-03-73, vous pouvez, pendant la prédication, pendant le petit temps musical après la prédication, poser les questions qui vous tiennent à cœur sur le texte que nous aurons lu et médité. Et puis nous prendrons quelques instants pour répondre aux questions, s'il y en a. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et nous prendrons donc le temps après la prédication pour un petit moment d'échange avec vos questions. Parfois, quand on lit un peu la Bible, ce que j'espère que vous faites, quand on a quelques kilomètres de vie chrétienne au compteur, ou même quand simplement on a un peu de culture, on a l'impression qu'on sait d'avance ce qu'on va y trouver dans la Bible. Et franchement, avec le temps, on s'émousse un peu, on a de la peine à se laisser cueillir par cette parole pourtant vivante. Par exemple, alors que j'abordais ma préparation sur acte 8, puisqu'on suit le livre des actes. Ben ouais, c'est bon, je connais. Philippe et l'eunuque éthiopien. Un message, on sait quoi, sur le chrétien qui témoigne, un message sur le baptême. Voilà, on sait. C'est à peine la peine de lire le texte. On va pouvoir repartir tranquille, sans être trop dérangé, parce qu'on sait ce que le texte dit. Allez, deuxième essai. Pourquoi est-ce que Luc, l'auteur du livre des Actes, relate cet épisode-là? Parce qu'il y avait tellement de faits intéressants à l'époque. Pourquoi ce fait-là? Pourquoi Dieu a-t-il inspiré Luc de cette façon? qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi quand je lis ce passage pour la xième fois de ma vie ? Alors, si vous voulez une première réponse à ces questions, je propose de bien écouter la lecture du passage maintenant. Acte 8, les versets 26 à 40.
Un ange du Seigneur dit à Philippe : Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville, en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un petit détail avant d'aborder le fond de ce texte. Vous avez peut-être entre vos mains, version papier ou numérique, une Bible avec des notes de bas de page. Et vous pourrez donc remarquer cette notation qui précise que certains manuscrits anciens du livre des Actes rapportent le verset 37. Mais d'autres pas. La plupart des manuscrits anciens ne le rapportent pas. Il est assez probable ici qu'un scribe bien intentionné ait ajouté le verset pour préciser dans quelles conditions, à son avis, avec quelle profession de foi on peut être baptisé. Si tel est le cas, nous avons là non le témoignage inspiré de Luc, mais un témoignage de la pratique de l'Église ancienne sur le baptême. Alors, ce n'est pas bien grave, parce que si nous n'avons pas cette précision ici dans Acte 8, nous l'avons à d'autres endroits dans le livre des Actes. Une question beaucoup plus intéressante, à mon avis. Pourquoi est-ce que Luc a voulu conserver ce témoignage ? Probablement parce que ce témoignage, il entre dans le cadre de ce qui est annoncé au tout début du livre des Actes, au chapitre 1er, c'est-à-dire prolonger le récit de l'Évangile en racontant ce que Jésus a continué à faire après son ascension au ciel et par l'action du Saint-Esprit, et montrer comment ses témoins à Jésus ont annoncé l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie et finalement jusqu'aux extrémités de la terre, chez nous, à Mérin. Alors Jérusalem, c'est fait. C'est les 7 premiers chapitres du livre des Actes. On se concentre sur Jérusalem, c'est fait. La Judée et la Samarie, ben comme nous l'avons vu dimanche dernier, c'est la première moitié du chapitre 8 du livre des Actes. Et là, avec la conversion d'un dignitaire éthiopien, nous avons l'amorce de la suite qui ira jusqu'aux extrémités de la terre. Ce progrès de l'Évangile, il est marqué par des miracles. C'est la preuve que Jésus est le Messie. C'est la preuve que l'Évangile est vrai, qu'on ne nous a pas raconté des craques. Et il fallait, au début de l'histoire, que les choses soient confirmées par des miracles. Un message si extraordinaire que celui de la résurrection, annoncé par des gens qui n'avaient absolument aucun statut social et qui étaient même poursuivis par les autorités de leur temps, ce message-là, il était destiné à périr dans les sables. Sauf qu'il venait de Dieu. Et tout le livre des Actes témoigne que ce message venait de Dieu. Verset 26, c'est un ange qui dit à Philippe de quitter la Samarie et de prendre une route peu fréquentée entre Jérusalem et Gaza. Je ne m'arrête pas, mais deux noms de villes qui nous disent quelque chose aujourd'hui. Entre Jérusalem et Gaza, une route. Et Philippe doit se rendre là. Au verset 29, c'est le Saint-Esprit qui dit à Philippe de s'approcher du char, ce qu'il fait en courant. Verset 39, après le baptême de l'Éthiopien, l'Esprit enlève Philippe. On ne sait pas comment. Et pif, paf, pouf, il se retrouve à Asdod, à des kilomètres de là. L'action de Dieu. Le décor, c'est l'action miraculeuse et souveraine de Dieu. Ça, c'est le décor. Et puis, que dire des circonstances de la conversion de ce haut fonctionnaire. Ce n'est pas un juif de naissance, mais il avait rencontré le judaïsme dans son pays. C'est intéressant. Dans le judaïsme, des témoins de l'Évangile. Il s'en était approché, l'eunuque éthiopien, à tel point qu'il est venu à Jérusalem en pèlerinage. Il avait donc, cet eunuque éthiopien, ce haut fonctionnaire, ce dignitaire, il avait une certaine connaissance de Dieu et de sa parole. Son cœur était préparé. Et qu'est-ce qu'il lisait à haute voix dans son char? L'un des passages les plus clairs de l'Ancien Testament qui annonce avec précision la mort du Messie pour le salut des siens et pour le monde entier. Drôle de coïncidence, hein ? Trouvez pas ? De plus, il était administrateur des biens de Candace, la reine d'Éthiopie. Il occupait donc une position d'influence qui allait certainement servir à faire connaître l'Évangile sur tout le continent africain. Traditionnellement, on l'appelle l'eunuque éthiopien. Un eunuque, c'est un homme qui a été castré. Dans l'incapacité, donc, d'avoir des enfants. Et tiens, justement, il lit un passage qui parle d'un homme dont la descendance a été supprimée. On peut comprendre qu'il se pose des questions, lui, l'homme castré. Dans l'Antiquité, à certaines époques, dans certains pays, on produisait ainsi, par la castration, des hauts fonctionnaires dont le cerveau n'était pas altéré, mais qui n'avait pas ses pulsions hormonales viriles qui pouvaient menacer le pouvoir. Seulement, le mot en est parfois venu à désigner n'importe quel haut fonctionnaire, castré ou pas, puisque le mot est attribué par exemple à Potiphar, par exemple à Daniel et à ses compagnons. Et là, on ne sait pas trop pour notre Éthiopien. Mais s'il est venu adorer au temple de Jérusalem, c'est qu'il en avait le droit. C'est qu'il n'était pas mutilé forcément dans sa chair. D'où la traduction préférée de la Nouvelle Bible Second, la Nouvelle Bible Sommer, notre NFC, qui parle plutôt d'un haut fonctionnaire. Maintenant, s'il parlait avec une voix de soprano, cela nous dirait encore avec plus de force que l'Évangile est pour tout homme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition, quel que soit même son handicap. Il est pour tous et toutes l'Évangile. Et au début de l'Église, comme aujourd'hui, les chrétiens conservateurs ont besoin de l'entendre. L'Évangile, il est pour tous et il est pour toutes. Et voilà que le progrès de l'Évangile est donc marqué par des miracles. Et le plus grand des miracles, c'est la conversion. La conversion, ici, elle est stratégique. Pourquoi, encore une fois, raconter cette conversion-là ? Parce que c'est une conversion stratégique. Sur le plan géographique, c'est lui, c'est cet homme qui va annoncer l'Évangile au-delà de l'Égypte, au-delà de l'Empire romain, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie, le Soudan. C'est une personnalité de haut rang, ce qui certainement va lui faciliter la tâche. Mais cela facilite aussi le témoignage des chrétiens de partout. Pour un public grec, romain, l'Évangile ne pouvait pas être pris au sérieux. Il annonçait un prophète mort dans la honte et rejeté par tout ce qui comptait en Judée. Le message, il était propagé par des gens du peuple, sans diplôme. Il était suivi par tout un peuple d'esclaves et de sans grade. Paul dira au sujet de l'église de Corinthe, « Il n'y a ici pas beaucoup de riches et pas beaucoup de nobles, des gens simples. » Tout au long du livre des Actes, Luc prend soin de noter non seulement l'opposition d'un Hérode ou du grand conseil juif, mais il relève aussi l'amitié de certains fonctionnaires romains pour Paul, certains jugements plutôt favorables, certaines conversions notables. Le ministre des Finances éthiopien, le chancelier de l'échiquier, se convertit. C'est une nouvelle qui encourage tout le monde. Et aujourd'hui, si nous, nous prions pour des conversions stratégiques, ce n'est pas du snobisme, ce n'est pas de l'élitisme. C'est juste pour que les portes d'une famille s'ouvrent, pour que les portes d'une entreprise s'ouvrent, pour que les portes d'une ville, d'un pays, d'une région s'ouvrent. Maintenant, il ne suffira pas de dire que la conversion de l'Éthiopien était importante pour l'évangélisation du monde, ou que Dieu l'a préparée d'une manière exceptionnelle. Je pense que c'est le cas, mais on ne peut pas s'arrêter là. Luc veut aussi, par ce récit, nous apprendre, ou peut-être nous rappeler, ce qu'est la conversion. C'est un modèle, ce qui se passe ici. C'est un des modèles possibles. Il y aura Saul de Tars et le chemin de Damas. On en parlera dans quelques dimanches. Il y aura d'autres conversions juives et païennes, spectaculaires ou tranquilles. Mais ici, nous avons la conversion d'un homme pieux, qui cherche à mieux comprendre, qui cherche à approfondir la foi qui est déjà la sienne, au moins en germe. Il se convertit, cet homme, sans éclair ni tonnerre, sans tremblement de terre, sans miracle apparent. Mais il se convertit pour de vrai. Tout n'y est pas dans ce récit. Par exemple, on ne parle pas de repentance ici. Mais il y a quatre facteurs importants que nous ferions bien de méditer et je terminerai avec ça. Le premier facteur important, c'est la place de la parole de Dieu. Il est très frappant dans ce récit que l'homme soit en train de lire la Bible quand Philippe s'approche de lui. Il s'est procuré un rouleau du prophète Ésaïe, un grand rouleau, comme celui qu'on peut voir dans le sanctuaire du livre à Jérusalem, par exemple. Et il lit justement le passage qui dit que le serviteur de l'Éternel, le Christ, donnera sa vie en rançon pour beaucoup et qu'il ressuscitera. Il ne comprend pas tout, mais il est au contact direct de la parole de Dieu. Et il se pose des questions. Il est ouvert, réceptif. Il est en route. De nombreuses personnes se convertissent ainsi au contact de la parole de Dieu, en lisant la Bible. Un cher ami s'est converti tout seul au bord de l'Arve, il y a une quinzaine d'années, juste en lisant l'évangile de Jean. Et puis il s'est arrêté au bureau de l'église où j'étais à l'époque pour me dire « Je viens de lire ça, je suis sûr que ça s'adresse à moi, puis je ne sais pas comment faire. » Au contact de la parole de Dieu. Luther s'est converti en lisant l'épître aux Romains. L'apôtre Paul dira que la foi vient de ce que l'on entend, la parole du Christ. Romains 10, 17. Parole écrite ou parole annoncée, c'est Dieu qui vient vers nous de cette façon, par sa parole. La foi, elle ne nous tombe pas sur la tête inopinément. La foi ne nous tombe pas dessus à l'insu de notre plein gré. Elle ne naît pas par magie en nous. Elle est suscitée par la parole de Dieu. Pierre dira que ses lecteurs, 1 Pierre 1, 23, ses lecteurs ont été engendrés par la parole vivante et éternelle de Dieu. C'est pour ça que nous donnons du temps et de l'espace à la parole de Dieu ici. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons préparer, imaginer, essayer d'adapter à notre temps, nous avons besoin d'être confrontés à la parole de Dieu. Ce n'est pas que la Bible serait un outil magique qui marche à tous les coups. Dans la parabole du semeur, Jésus dit même que ce qui n'est pas compris est perdu et picoré par les oiseaux. Mais quand la parole de Dieu est comprise, quand la parole de Dieu est prise au sérieux, alors elle est puissante. Ce qui m'amène au rôle du témoin dans la conversion des gens. Le témoin, le facilitateur, Philippe, ne dit pas tout, tout de suite. Il dit ce qu'il sait, le témoin, humblement, respectueusement, en fonction de la capacité d'écoute des gens. Il est un maillon dans une chaîne. Il laisse une parole qui, j'espère, fera réfléchir, qui va semer un souvenir qui sera rappelé plus tard. Philippe, lui, il arrive au bout du processus. Le fruit, il est mûr, mais il ne va pas tomber tout seul. Notre Éthiopien, il a besoin d'explications. Suite à quoi, les différents morceaux du puzzle vont trouver leur place dans son esprit. Et il en est ainsi depuis le début de l'histoire, bien-aimé. Les femmes sont témoins de la résurrection et elles vont l'annoncer. Les apôtres sont témoins de la résurrection et ils vont l'annoncer. Génération après génération, les chrétiens et les chrétiennes disent ce qu'ils ont vu, compris, expérimenté. Et s'il le faut, ils utilisent des mots. Ils pointent vers la parole, ils pointent vers Jésus. Et Dieu peut se révéler à qui il veut, quand il veut, où il veut. À Abraham, à Job, à Saul de Tarse, qui est pétri de haine à l'encontre des chrétiens. Mais Saul, lui, il a vu et entendu des témoins. Il les a même mis à mort, poursuivis, pourchassés. Des chrétiens anonymes. Et puis un homme dont l'histoire retient le prénom, Étienne, le martyr. Puis Dieu lui envoie un autre témoin en la personne d'Ananias. Et Dieu ici envoie un témoin vers cet homme éthiopien pour que la dernière étape de sa conversion s'accomplisse. Des témoins, des facilitateurs, ce que nous sommes censés être. Et des facilitateurs, ils prennent du temps pour ôter les obstacles, pas pour en créer. Et puis Jésus au centre. Il y a un truc qui me surprend ou qui m'a beaucoup surpris dans une église que j'ai bien connue pendant une vingtaine d'années. Certaines personnes demandaient le baptême et se préparaient à raconter leur témoignage. Mais ils pouvaient oublier de citer jusqu'au nom même de Jésus-Christ. Ils ont reconnu Dieu comme créateur, comme celui qui est intervenu dans leur vie, ils voulaient marcher avec lui. Mais quel Dieu ? Quel Dieu ? Celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Celui qui, en Christ, les a sauvés. Seulement, ils ne le disaient pas. Ils sont venus à Christ par le biais de la providence de Dieu et il a fallu qu'ils apprennent Christ. La conversion de l'Éthiopien est dans ce sens un modèle. Parce que le message concernant Jésus prend toute sa place. Il est annoncé par les prophètes. Il est venu, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité, selon les Écritures. L'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce de Jésus. Tout le reste n'est que garniture. La conversion, c'est la conversion à Christ. Christ au centre. C'est pas la conversion à une église, c'est pas la conversion à un pasteur, c'est pas la conversion à une tradition, c'est pas la conversion à des convictions. C'est la conversion à Jésus. Lui fait le reste. Christ au centre. Et c'est entre autres pour ça que nous organisons pendant cette saison des ateliers bibliques sur la personne de Christ qui est tellement unique. Apprendre Christ. Et si maintenant le ministre éthiopien demande à être baptisé, c'est probablement que Philippe lui en a parlé. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Le baptême. Le 12 octobre prochain, nous aurons ici un baptême. Mais si quelqu'un se pose des questions sur le baptême, aurait envie d'être baptisé, venez me voir. Il y a toujours de la place pour un deuxième, un troisième, un trentième baptême. Il y a un temps pour tout. On ne peut pas dire tout tout de suite. Mais celui ou celle qui veut devenir disciple de Christ le confirme par le baptême et s'engage à apprendre tout ce que Jésus a enseigné, à l'apprendre pour le vivre, pas pour le connaître, pour le vivre. Ce qui implique normalement une vie d'église, une implication personnelle. Si vous vous convertissez sur un chemin désert quelque part entre Jérusalem et Gaza, ou si vous êtes en partance pour l'Éthiopie, vous avez le droit de ne pas faire partie d'une église. Vous allez de toute façon en créer une quand vous arriverez à destination, n'est-ce pas ? Mais l'annonce du salut ne s'arrête pas à une simple acceptation de Jésus. Le salut implique l'apprentissage de l'implication. Être sauvé, c'est s'impliquer. Je conclus. Ce modèle de conversion nous permet donc une sorte de mise au point, de check-up. Trois questions. dans ma découverte de l'Évangile, où est-ce que j'en suis ce matin, 14 septembre 2025. J'en suis où dans ma découverte de l'Évangile? Est-ce que je suis proche, tout proche, à un cheveu? Est-ce que je suis en chemin? Est-ce que je suis perplexe devant les Écritures? Plein de questions. Besoin de partager, d'échanger, besoin d'un guide. Et venez me voir. On va en parler. Venez me voir, s'il vous plaît. Restez pas tout seul avec vos questions. Venez me voir. Venez voir Thierry, venez voir Rebecca, venez voir un membre du conseil. On vous accompagnera. L'Évangile, c'est magnifique. Encore plus à découvrir ensemble. Dans mon annonce de l'Évangile aujourd'hui, je vise quoi? Je mets quoi en avant quand j'annonce l'Évangile? Un modèle d'éthique? L'appartenance à une étiquette? Philippe, c'est un modèle pour moi, parce qu'il annonce Jésus, il sert, puis paf, tout d'un coup, il disparaît. Personne n'est indispensable. Dans notre témoignage d'Église, pouvons-nous prier pour que Dieu nous donne aujourd'hui des conversions semblables, des hommes et des femmes mûrs, parce que travaillés par Dieu, qui sont à ça de la conversion, qui ont juste besoin d'être décrochés et qui donnent leur vie au Christ et le montrent en étant baptisés? Faut prier pour ça. Faut prier pour ça, les amis. Faut qu'on s'implique sérieusement. Ça va pas se faire comme ça, pif, paf, pouf. Faut y aller. Que ce récit soit un modèle pour nous. Amen. Merci. Trois très bonnes questions. Est-ce que la porte d'entrée de la conversion est forcément la Bible? C'est possible que quelqu'un se convertisse par envie de spiritualité ou d'autres portes? Première question. Je ne crois pas que la porte d'entrée de la conversion, du fait de donner sa vie à Dieu, soit forcément la Bible. Je crois que quand on est au contact de la Bible, les lignes bougent, ça c'est sûr. Mais comme Dieu est grand, il fait comme il veut. Et il peut y avoir une soif de spiritualité, une soif de sens, qui ne passe pas d'abord par la Bible. Mais je pense que la Bible, à un moment donné, elle vient confirmer, préciser les choses. Parce que la conversion, ce n'est pas du vent. La conversion, c'est un retournement. C'est la compréhension que quelqu'un a payé le prix pour moi, pour me donner du sens de la vie et de la liberté. Et ça, c'est la Bible qui vient me l'enseigner, qui est parfois résumée dans des catéchismes ou par des conférences ou des prédications, mais on doit se confronter à un moment donné à la Bible. Maintenant, notre Dieu est tellement grand qu'il fait comme il veut. Et en particulier dans ces pays, nombreux dans le monde encore, où la Bible n'est pas à disposition des uns et des autres, où les gens des fois ne savent pas lire, et où Dieu, on entend ses témoignages, se révèle entre autres par des rêves. Mais pour nous qui avons la parole de Dieu, les amis, je crois que Dieu se révèle essentiellement par là. Pas que par là, mais essentiellement par là. Une deuxième question. Entre guillemets, quel Dieu, point d'interrogation, question que j'ai posée tout à l'heure. Bonne question. Est-ce qu'on n'a pas tous une idée différente de Jésus, non seulement entre confession, mais aussi entre évangéliques? Oui, bien sûr. Les idées sur Jésus, les bouquins sur Jésus, les cours sur Jésus, vous allez en trouver de tous les côtés, et des fois, comme ces sujets où on a tellement de matière, c'est difficile de s'y retrouver. À quelque part, si vous êtes d'accord, faites un peu confiance à ceux qui ont été formés, à ceux qui ont du temps, à ceux dont c'est le métier, pour essayer de vous restituer le plus honnêtement possible ce qu'ils ont compris de Jésus. Ma compréhension de Jésus, depuis 40 ans que j'apprends à le connaître, 45 ans, j'étais tout enfant, elle a changé, elle s'est précisée. Je suis très heureux de ce que je crois aujourd'hui de lui. J'ai tellement envie de le partager. Mais oui, il y a beaucoup de conceptions différentes de Jésus. Même dans la tradition chrétienne, même dans la tradition protestante évangélique, entre ceux qui pensent qu'il n'a même pas existé et ceux qui pensent qu'il a existé et qu'il agit aujourd'hui, vous voyez le gouffre qu'il y a. Entre ceux qui pensent que c'était un formidable prophète et ceux qui pensent qu'il est le sauveur personnel, il y a un gouffre immense. Entre ceux qui pensent que Jésus, ça marche pour le début, mais pas pour la suite et encore moins pour la fin, il y a un gouffre immense. Mais parlons-en, purée. Parlons-en. Faisons pas comme si ça n'existait pas. Et c'est pour ça qu'on a des ateliers bibliques. C'est pour ça qu'on a la catéchèse. C'est pour ça qu'on a le groupe de jeunes. Il faut en parler. Il faut que vos questions puissent s'exprimer. Est-ce que l'eunuque éthiopien savait l'araméen pour pouvoir lire le livre d'Ésaïe? Comment s'est-il procuré ce livre? Il n'y avait pas d'imprimerie. C'est une très bonne question, je ne sais pas parce que ce n'est pas dans le texte. Mais je sais que les rouleaux du livre d'Ésaïe étaient traduits en de nombreuses langues à l'époque de l'Évangile, dont l'araméen, probablement plutôt l'hébreu, qui était courant en Éthiopie. Mais on ne sait pas parce que le texte ne le dit pas. J'ai répondu aux trois questions qui étaient posées ce matin, ce que je trouve plutôt pas mal dans le temps qui m'était presque imparti. Je laisse Joël prendre la suite et la fin des opérations.
Tu vas repasser dans un instant. Dieu règne dans les cieux, mais il veut aussi régner dans nos cœurs et il nous appelle à être témoins ici. Alors il y a différentes manières d'être témoins, chacun individuellement. Nous pouvons l'être en étant parfois très créatifs. Et en Église, on essaie aussi de le faire, d'être témoin et d'être créatif. Et c'est dans cette idée aussi d'être témoin que nous allons chanter encore une fois une strophe de Notre Dieu. Et puis pendant ce temps, on va récolter une collecte qui permet à l'Église, ici à Mérin, mais aussi un peu plus loin, d'être témoin, de parler de Dieu, de témoigner de Dieu, d'annoncer sa parole et de dire qui est Jésus pour nous. Alors je vous invite à vous lever et puis on va passer des petits sachets.
Chantons Notre Dieu règne dans les cieux.
Notre Dieu règne dans les cieux. tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné
Merci Seigneur de pouvoir être témoin et de participer à ton action de différentes manières. Merci pour la diversité des dons et la diversité des manières de te servir. Aide-nous à nous mettre au travail, mais surtout à te faire confiance et à nous appuyer sur toi pour te servir là où tu nous as placés. Merci pour cet argent qu'on peut mettre de côté pour toi et qu'il permette de te faire connaître ici et beaucoup plus loin aussi. Amen. Alors vous pouvez reprendre place, on a quelques annonces et c'est Philippe cette fois qui s'y colle.
Merci pour votre libéralité, elle est importante, votre libéralité. Nous en avons besoin pour mener les projets qui nous tiennent à cœur et nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous montrez comme générosité dans l'Église. J'ai 4 annonces courtes à vous faire. Je vois quelques visages nouveaux. Ce matin, j'aimerais juste vous dire que si vous avez des questions sur notre Église, si vous souhaitez vous abonner aux nouvelles de l'Église, nous avons sur la porte de sortie des codes-barres qui vous permettent très facilement de vous abonner soit à l'Actu Mérin qui vient une fois par semaine environ, soit aux lettres, aux nouvelles sur le groupe WhatsApp. Mais n'hésitez pas, c'est facilement accessible et puis ça vous permet de savoir un petit peu ce qu'on vit et ce qu'on propose. Dimanche prochain, nous aurons la joie, le privilège de fêter Thierry et Rebecca Terra, qui font partie de l'équipe pastorale avec moi. Et puis c'est leur culte d'installation dimanche prochain, un beau moment à vivre ensemble, aussi avec quelques invités. Et le tout sera suivi d'un apéritif et d'un repas au prix modique de 10 francs. Les enfants sont nos invités, mais n'oubliez pas de vous inscrire pour le repas, ça demande quand même un peu d'organisation. Pour l'instant, Zena tient debout, mais si vous tenez à Zena, n'oubliez pas de vous inscrire pour le repas de la semaine prochaine. Le vendredi 3 octobre à 19h30, hein, Johan, c'est juste, nous tenons ici un colloque, c'est super le mot colloque, hein, ça veut dire assemblée générale, mais derrière le côté administratif, c'est vraiment top de vivre une assemblée générale. On y parle de la vie d'église, on y prend de grandes orientations. Ici, on tient à ce que les membres s'expriment. N'oubliez pas de noter cette date, vous allez recevoir une convocation. Et vous qui ne seriez pas encore membre, vous êtes les invités aussi pour ce colloque. Vous ne pouvez juste pas voter tant que vous n'êtes pas membre. Mais n'hésitez pas à venir montrer votre curiosité. Et puis, une dernière annonce qui nous tient à cœur, à Rebecca, ma collègue responsable enfance et jeunesse, et à moi, c'est que nous avons eu le grand privilège de relancer au mois de septembre le caté, donc pour les 11-14 ans, et le groupe de jeunes pour les 11-15 ans. J'ai des beaux 11-20, 15-20 ans. Oh, purée, Chloé, tu me sauves la vie. C'est ça, c'est bien d'avoir nos jeunes du groupe de jeunes ici, comme Camille, Chloé, Alicia, entre autres, c'est trop cool. Nous sommes une bonne dizaine dans les deux groupes. C'est vivant le vendredi soir, je peux vous dire. Donc entre 18h30 et 20h, 20h30 environ. S'il y a parmi vous des gens qui sont intéressés, des jeunes qui sont intéressés, soit pour le KT, je répète, 11-14 ans, le groupe de jeunes 15-20 ans, il faut venir nous voir. Rebecca, il y avait la photo tout à l'heure, ou moi, puis on vous en dira plus. C'est des soirées sympatoches.
Merci. Et je vous invite à vous lever pour finir ce culte ensemble. Dans ces passages d'Ésaïe que nous avons repris en partie, il y a plein de promesses, certaines que nous pouvons vivre pleinement dès maintenant, d'autres qui font partie d'un maintenant, mais pas encore complètement. Mais Dieu nous affirme, même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. « Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » Alors que nous puissions être témoins, tout comme Philippe dans le texte de ce matin, et que nous puissions partager cet amour et cette paix que Dieu donne autour de nous jour après jour. Bonne semaine à chacun, bonne suite de culte avec le café. Bon dimanche.
Come and make your home.